tous, bienvenue à l'EPI. On est heureux de se retrouver ce matin pour célébrer, pour louer notre Dieu. Est-ce qu'il y a une église ce matin qui a le cœur pour dire combien Dieu est bon? Alors je vous propose de vous lever et on va louer notre Dieu ensemble ce matin. Jésus, oui Seigneur, tu es bon, Tu es bon pour moi. Alléluia. Oui, il vit,
mon Dieu est puissant.
En son nom,
j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant.
Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie, plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu. T'élever, Seigneur, dans nos vies, dans nos familles, ici, dans cette église à l'épine. Oui, Seigneur, tu es élevé, Jésus. Oui, Jésus, tu es élevé. Jésus, merci parce que tu es saint. Trois fois saint, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus, pour qui tu es. Soif de toi ce matin. Élevons nos voix pour lui dire combien il est grand, combien il est merveilleux, combien il est digne de louange. Église de l'Épi, élève ta voix ce matin, élève ta voix, parle à ton Dieu, dis-lui combien tu as besoin de lui dans chaque détail de ta vie, dis-lui combien tu l'aimes, combien il est précieux pour toi. Dieu est là ce matin, il parle à nos cœurs, il touche les cœurs.
Je veux te connaître.
Nos soucis. Seigneur, tout est à toi. Tout est pour toi ce matin. Oui, Seigneur, nos cœurs ont soif de toi. Nos cœurs crient après toi ce matin.
Je voudrais apporter une pensée qui me semble venir du Seigneur et que je soumets au discernement de l'Église. Et pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent la première fois, sachez que nous sommes une Église comme d'autres qui pensons que Dieu peut parler encore aujourd'hui à travers les hommes et les femmes que nous sommes. Actuellement, tu as l'impression de ne plus avoir de repères, de les avoir perdus. Actuellement, tu as l'impression d'être en déséquilibre et de découvrir un nouveau paysage. Et tu n'es pas du tout rassuré, tu es inquiet, inquiète et tu te demandes si tu as fait le bon choix. Parce que tu ne reconnais rien à ta vie de ce que tu avais avant. Mais n'oublie pas, tu as fait comme dans ce chant il y a quelque temps. Tu as dit au Seigneur, « Ok, je suis partant, partante avec toi. » Je te donne ma vie, je m'abandonne à toi, je te laisse faire. Ce que tu vis, c'est tout simplement l'exaucement de ta propre prière. C'est comme si tu étais monté sur un voilier et tu es en train de quitter le port que tu connais et tu vas vers un horizon que tu ne connais pas. Et puis tu sens de l'agitation. Ça te déstabilise, ça te fait peur, tu te dis « je vais tomber, il se passe quelque chose de pas normal ». Mais si, c'est tout à fait normal. Ce qui est en train de se passer, c'est le vent qui souffle dans tes voiles. Et ce vent, c'est l'Esprit Saint. Et s'il n'y a pas de vent dans les voiles du voilier, il ne peut pas avancer. Alors bien sûr, au début, tu es perturbé. Tu dois trouver comme une forme de nouvel équilibre. En quelque sorte, tu dois apprendre à avoir le pied marin. Mais tu vas y arriver. Parce que ça, ce n'est que le début. C'est l'apprentissage. Parce que ce que le Seigneur veut pour toi, c'est que tu apprennes à conduire ton voilier avec lui. Parce qu'il veut te conduire effectivement vers de nouveaux horizons. Il t'a parlé de mission. Tu iras en mission. Peut-être pas de la façon à laquelle tu penses. Il t'a dit qu'il t'enverrait. Tu as dit, je veux bien Seigneur. Il va t'envoyer et en fait, il te prépare à être envoyé. Mais ça ne se passera pas tout à fait comme toi, tu l'imagines actuellement. Et ça n'est pas grave parce qu'au fur et à mesure, le Seigneur va te permettre d'apprendre de nouvelles choses, il va te permettre d'être prêt, prête pour ce nouvel horizon auquel il t'appelle. Alors n'aie pas de crainte, apprends avec lui, ne crains pas, ne crains pas, tu es bien dans le bon plan de Dieu.
On va reprendre « Je m'abandonne » comme une réponse. Oui, Seigneur. Peut-être qu'effectivement, certaines personnes se sentent comme dans l'insécurité, ne savent plus trop ce qui se passe, mais ce matin, on veut tout déposer à tes pieds, Jésus. On veut s'abandonner à toi.
Je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus.
Encore.
Je
à toi,
je m'abandonne
tout à toi, Jésus.
Je veux te connaître plus, tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi, tel un ouragan. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant.
De trois essais. Je suis enfant de Dieu. Ah, quelle déclaration! Quelle déclaration! Bienvenue à chacune et à chacun. Bienvenue à vous qui êtes en ligne maintenant, qui vivez cette expérience de rejoindre l'Église, de louer Dieu ensemble. Il est bon de prier en chantant ou chanter en priant, n'est-ce pas? Ah, à ce moment-là, notre âme dit : je bénis l'Éternel. Dans cet environnement de louanges et de prières. Est-ce qu'on peut remercier l'équipe qui vraiment nous a conduits ce matin? Ils se rencontrent en semaine, ils prient, et c'est vraiment une grande joie pour nous de les accueillir et de vous accueillir aussi, vous qui êtes en ligne. J'aimerais qu'on puisse honorer un public particulier ce matin. Ils sont avec nous, vous savez, on est dans un week-end un peu prolongé, lundi étant férié. Et puis il y a comme cela des familles et on a la joie d'avoir les enfants épisode avec nous. Les enfants, est-ce que vous pouvez juste vous lever les mains et les grands-enfants vont vous souhaiter la bienvenue. Les enfants, vous pouvez lever la main bien haut, levez-vous, n'ayez pas peur et on va vous accueillir. Allez, on accueille bien fort les enfants. Vous êtes les bienvenus ici, vous êtes aimés ici. Alors maintenant les enfants, j'aimerais vous présenter encore une autre catégorie de grands-enfants. On les appelle les adultes. Alors j'aimerais que tous les adultes puissent se lever et vous les enfants, vous allez leur souhaiter la bienvenue. Levez-vous les grands adultes, allez levez-vous. Et les enfants, applaudissez-les, encouragez-les. Voilà. Et maintenant, avant de s'asseoir, vous savez, on va faire quoi ? On va applaudir notre papa qui est dans le ciel. À lui revienne toute la gloire et on va le faire tous ensemble. À lui toute la gloire. Toute la gloire. Vous pouvez prendre place. Voilà, bienvenue à vous qui nous suivez. Quelques annonces dans la vie de notre église locale, notre communauté. On est très heureux de pouvoir vivre à chaque semaine différentes rencontres. Il y a des espaces où on cultive des relations avec Dieu, des relations les uns avec les autres. Par exemple, nous avons pour les aînés un espace de relations où on loue Dieu, on s'édifie autour de la Bible et l'enseignement de la Bible. On l'appelle la rencontre des aînés. Si vous estimez être dans une saison de sagesse de votre vie où vous êtes aîné ou senior, il y a une rencontre pour vous, il y a un espace de relation pour vous ici à l'EPI. Ça aura lieu le 5 mai 2023 à 14h30. Pourquoi ? Parce que normalement les aînés, la majorité sont retraités, ils ont cet espace-là de liberté pour pouvoir venir. Donc rencontre des aînés le vendredi 5 mars à 14h. Oui, 5 mai, exactement. 5 mai 2023 à 14h30. Eh, hey, c'est pas beau ça? Les aînés se rencontrent en salle jeunesse. Ça, c'est l'épi, les amis. Ça se mélange et tout, c'est trop bien. Donc, en salle jeunesse, voilà. Toutes les papilles, les mamies, les jeunes retraités, tout ça, rencontre des aînés. Le groupe des 30-45 aussi, c'est un espace où on vit des relations en extérieur, on marche, on découvre, on visite notre belle région de Strasbourg et on s'édifie autour de la présence de Dieu avec Dieu. Le groupe des 30-45 ans, le 6 mai, il y a un événement, il y a une rencontre pour vous aussi. Dans le hall d'accueil, il y a Greg. Greg, est-ce que tu peux juste te lever? On peut mettre un tout petit peu de lumière, Greg, si tu es dans les... Voilà. Greg est le responsable. Est-ce qu'on peut l'encourager des 30-45, un des responsables ici à l'EPI? Il sera avec toute une équipe dans le hall d'accueil et tu te feras un plaisir, j'imagine, avec toute l'équipe de pouvoir répondre aux questions sur les lieux, les rencontres, comment on peut connecter ensemble quand on a 30-45 ans dans une petite famille comme la nôtre. Vente des aiguilles solidaires à la le 14 mai, les aiguilles solidaires, ce sont des objets confectionnés main. C'est aussi un espace où on confectionne des objets, mais on s'encourage. On échange ensemble et l'objectif c'est de vendre des objets faits main pour venir soutenir les projets culturels au niveau missionnaire, humanitaire. Donc il y a une vente des aiguilles solidaires le 14 mai ici dans le hall d'accueil, et on peut aussi, juste pour finir, vraiment remercier, elles se reconnaîtront, je vais pas les mettre mal à l'aise, mais toutes les personnes qui, semaine après semaine, confectionnent cela pour bénir des personnes qu'elles ne connaissent pas aux quatre coins du monde. Est-ce qu'on peut juste les applaudir? Elles se reconnaîtront aussi. Quand on prend ça, vous savez qu'on va passer au moment de la parole. Et c'est un privilège pour moi encore de pouvoir présenter quelqu'un qu'on ne présente plus ici à l'EPI. Hein. Et on est très heureux de l'avoir avec nous ce matin pour nous partager le conseil vraiment des temps d'édification, des temps vraiment encourageants. Alors, est-ce qu'on peut juste bénir un de nos pasteurs ici à l'équipe pastorale, Michel Schneider, alors qu'il vient et qu'il va prêcher la parole. Sois béni, Michel.
Merci Mathieu, merci à tous, heureux de vous retrouver. Et c'est intéressant de faire un petit bout de chemin, dimanche après dimanche, avec les uns et avec les autres. Et on a développé la communion fraternelle, des aspects qu'on n'imaginait pas depuis la fermeture de notre parking ici. Donc, merci pour votre réactivité aussi. On n'imaginait pas avoir autant de monde après la fermeture du parking, et pourtant, ça ne nous empêche pas de venir ici louer le Seigneur.
Et justement, pour vous encourager, vous remercier pour votre fidélité, j'ai une information importante de la part de notre trésorier Freddy Fried. Juste avant, j'ai juste réussi à te couper avant que tu commences ton message, je suis content. Juste pour vous dire, pour celles et ceux qui soutiennent les projets de l'EPI, qui soutiennent toutes les actions et les services qu'on fait à l'année, que les reçus fiscaux sont prêts. Ils sont disponibles. Freddy, notre trésorier, se tiendra tout de suite en sortant à droite à l'espace librairie, et vous pourrez prendre vos reçus qui font partie de cet espace de vie même après la fin des parkings. Donc voilà, un grand merci à chacune et à chacun. Je ne te dérange plus, Michel.
Merci Mathieu. C'est un grand bonheur de travailler ensemble. La thématique de ce matin, pour être un épisode d'une série, je l'ai appelé « Confronté au prince des ténèbres ». Ouh. En 1962, Henri Salvador, on rejoint les anciens là, Henri Salvador chantait cette chanson « Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Et les hommes tranquilles s'endorment, le lion est mort ce soir. Tout est sage dans le village, le lion est mort ce soir. » Puis le refrain disait « Awimbawe, Awimbawe. » Ça vous rappelle quelque chose ? Et si le lion n'était pas mort, et s'il cherchait à nous dévorer? Eh bien, c'est exactement ce que dit l'apôtre Pierre dans la première lettre au chapitre 5 et verset 8, où il nous dit « Soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. » Et nous voilà prévenus. Imaginez que vous soyez dans un zoo et que subitement, haut-parleur, arrive une annonce. Mesdames et messieurs, nous vous informons qu'un lion vient de s'échapper de l'un de nos enclos. Il erre dans le zoo et de plus, il n'a pas encore mangé. Soyez extrêmement prudents. Mes amis, je crois qu'on va être prudent et on va prendre la première porte de sortie pour s'éloigner, s'échapper du zoo. Alors, il y a des gens qui ne croient pas à l'existence du diable. Ils pensent que c'est juste un élément de langage et c'est symbolique, symbolisant le mal. Et puis, vous en avez d'autres qui voient le diable partout. Et ils attribuent toutes sortes de mal qui est répandu sur la terre au diable. S'il peut tenter les hommes, c'est qu'il trouve de la complicité chez les hommes. En réalité, le mal, il peut se trouver à l'intérieur. C'est ce que dit Matthieu 7, 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les mauvaises pensées qui mènent à l'immoralité, au vol, au meurtre, à l'adultère, l'envie, la méchanceté. Tout ce mal vient du dedans. Le mal est en nous. Et il est, du coup, une source de tentation. Mais le mal est aussi autour de nous, ce qu'on appelle parfois le monde. Une façon de penser, de vivre, qui a écarté Dieu de son champ de vision et qui s'oppose même à Dieu. C'est une autre source de tentation. Et puis, vous avez le mal qui vient du malin, du tentateur. Et quand Jésus en parle, il le présente comme un être réel, comme une vraie personne. Luc 22, 31, il dit à Pierre, « Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé, mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. » Et Pierre a été gardé. Satan est donc un ange déchu, et depuis sa chute, dont on a un résumé dans Ésaïe au chapitre 14 et Ézéchiel au chapitre 28, il est en conflit contre Jésus, mais du coup aussi en conflit contre tous les disciples de Jésus. Et il cherche à faire le plus de mal possible, à nous éloigner de Dieu, et puis à nous éloigner du ciel. Le diable est un menteur, il est un diviseur, et c'est un voleur. Et Jésus en parle en disant, dans Jean 10, au verset 10, « Le voleur ne vient que pour voler, pour égorger et détruire. » Et quand on voit l'état du monde, il faut bien reconnaître qu'il fait bien son job. Il fait bien son travail. Et l'épisode de la tentation de Jésus dans le désert, dans Luc au chapitre 4, qu'on va voir ensemble, va donc nous servir de support pour comprendre la nature de la confrontation entre Jésus, la lumière du monde, et le diable, le prince des ténèbres. Donc, 5 aspects de cette confrontation. Commençons tout de suite par la première. Premier aspect, c'est une approche tactique. Tactique. Tactique, c'est un vocabulaire militaire. C'est l'art de combiner tous les moyens militaires pour le combat. Luc chapitre 4 au verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Apparemment, voilà une histoire qui commence bien. Mais le malin va user de tactique. Vous remarquerez que bien souvent, il attaque après une période de bénédiction, après une période de joie, après une période de victoire. C'est sa tactique. Bonne nouvelle ce matin, le diable est prévisible. Il est prévisible. Après un temps de bénédiction, il faut s'attendre à ce qu'il y ait ce qu'on appelle parfois un retour de manivelle. Voyons ce qui s'est passé au chapitre 3, juste avant la tentation. Luc au chapitre 3, verset 21. « Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Dans cet épisode, le ciel s'ouvre. Et juste après, dans l'épisode d'après, c'est l'enfer qui s'ouvre. On peut y voir un principe spirituel. Chaque action de Dieu va susciter une réaction de l'adversaire. Chaque action de Dieu suscite une réaction de l'adversaire. C'est un petit peu comme un lampadaire, vous savez, en été. Dès que la nuit commence à tomber et le réverbère, le lampadaire s'allume, vous avez tout un monde de la nuit qui s'approche de la lumière. Tous les insectes, les chauves-souris, etc. C'est la même chose. Et plus on est engagé avec Dieu, et plus il faudra compter avec la réaction de l'adversaire. C'est normal. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans avoir l'autre. C'est vrai que le vent souffle dans nos voiles, le Saint-Esprit, mais d'un autre côté, il y a un vent contraire qui va vouloir souffler pour essayer de nous déstabiliser et pour essayer même de nous détruire, de nous enlever notre joie, notre paix, notre bénédiction. Jésus, rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, est tenté par le diable. Alors on retrouve ce principe tout au long de la parole de Dieu. Par exemple, après sa sortie d'Égypte et sa libération de l'esclavage, le peuple d'Israël et poursuivi par le pharaon. C'est un symbole de l'adversaire, hein, un type de l'adversaire. Après le succès remporté sur les faux prophètes, Élie est menacé par Jézabel. Après l'épisode de la transfiguration, quand Jésus est magnifié sur la montagne, les disciples redescendent de la montagne et dans la vallée, ils rencontrent un jeune qui est sous l'emprise d'un démon. Vous voyez le décalage ? Matthieu 16, au verset 16, Pierre dit à un moment donné à Jésus qui pose la question « Qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre a une révélation de la part de Dieu. Il lui dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et quelques versets plus loin, Jésus se tourne vers Pierre et lui dit « Arrière de moi, Satan, tu es un piège. » Parce que les propos de Pierre à ce moment-là tendaient à faire sortir Jésus du plan de Dieu qui avait prévu d'aller jusqu'à la croix. Et Pierre lui dit « Non, ça ne t'arrivera pas. » Et derrière ces paroles se cachait l'influence de l'adversaire. En fait, ici, dans notre chapitre 4 de Luc, Jésus est au début de son ministère. Il prie, il jeûne pour se préparer à ses 3 années de ministère. Et vous avez remarqué que lorsque vous essayez de prier, vous essayez de prendre du temps pour Dieu avec la Bible et de vous mettre vraiment à part pour chercher Dieu, pour prendre du temps, pour être en communion avec Dieu, vous avez remarqué qu'il y a toutes sortes de distractions ou d'interférences, le téléphone qui sonne, enfin il y a toutes sortes de choses qui se mettent en branle-bas de combat pour essayer de vous voler ce moment avec le Seigneur. Le diable est un voleur. Alors je ne vous dis pas, essayez d'organiser une semaine de jeûne et prière avec 200, 250, 300 participants et vous allez voir si vous n'êtes pas en train d'entrer dans une confrontation. C'est obligé, c'est normal. L'adversaire est prévisible et il veut absolument nous empêcher de nous approcher de Dieu. Il cherche même à vous empêcher de venir à l'église. Ça serait intéressant de voir un peu ce matin, qu'est-ce que vous avez vécu ? Puis dans la voiture, alors attention. Puis une fois que vous êtes là, que de distractions. Puis une fois que vous partez de ce lieu, alors ça peut être déjà en prévision de votre départ tout à l'heure, une fois que vous quittez ce bâtiment, il va tenter de vous voler la bénédiction. C'est vrai ou pas ? Oui ? C'est vrai. Donc, la confrontation, elle est tactique. Deuxièmement, cette confrontation, elle va se focaliser sur un point de vulnérabilité. La vulnérabilité. Luc au chapitre 4, verset 2. « Il fut tenté par le diable pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Et alors là, l'adversaire vient exploiter à ce moment-là un moment de vulnérabilité, c'est la faim. Et Jésus était Dieu, il était parfaitement Dieu, parfaitement homme, et il avait un corps comme le nôtre, soumis à toutes les conditions humaines. Et 40 jours de jeûne, c'est long. C'est long. Mon jeûne le plus long a duré 15 jours. Mais quand vous arrêtez de manger, pendant un certain temps, vous n'avez plus faim. Et puis au bout d'un certain temps, la faim revient. Et c'est à ce moment-là qu'il faut recommencer à manger pour ne pas vous mettre en situation de danger. C'est un moment critique. Et l'adversaire vient profiter de ce moment de vulnérabilité pour attaquer. C'est un opportuniste. Un opportuniste. Et comme le lion qui s'attaque aux plus fragiles. Vous avez vu quelquefois des reportages à la télé, quand il y a un troupeau qui est là, puis une gazelle qui est un petit peu éloignée, une bête qui est un petit peu à part, il va toujours aller là. C'est le plus facile. C'est comme le brochet à la pêche. Le brochet est taillé comme une fusée, mais il s'attaque aux plus fragiles et aux plus faibles. Satan n'a jamais mis en doute la divinité de Jésus. Il dit ici, le texte, « si tu es le fils de Dieu ». Et ici, en grec, c'est-à-dire, on peut traduire « s'il est vrai que ». Puisque tu es le fils de Dieu, en fait, il n'a jamais mis en doute la divinité de Jésus. Luc, au chapitre 4, verset 34, on est dans une synagogue. C'est un homme qui est agité par un esprit mauvais. Et le démon dit, que nous veux-tu, pardon, Jésus de Nazareth, es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Dans Actes, au chapitre 19, il y a là quelques exorcistes ambulants qui vont essayer d'imiter l'apôtre Paul. Ce sont les fils de Séva, en priant pour un homme qui est tourmenté. Et l'esprit mauvais dit ceci, l'esprit mauvais lui répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Mes amis, chaque démon en enfer sait parfaitement qui est Jésus. Ils savent qui nous sommes. Le diable ne met pas en doute la divinité, mais il vient interroger l'amour de Dieu, en fait. Il vient interroger par rapport à l'amour de Dieu à son égard. Le genre, pourquoi Dieu ne te nourrit-il pas? Où est donc son amour? On a entendu tout à l'heure, tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation, mais il est où son amour? Tu dis que Dieu t'aime, mais regarde-toi, regarde, tu meurs de faim. Et je suis sûr que les uns et les autres, parmi nous, nous avons été de nombreuses fois questionnés de la sorte. Tu dis que Dieu t'aime, mais regarde. Et Satan lui suggère de se servir de sa puissance pour subvenir à ses besoins, puisque Dieu ne le fait pas. Et comment Jésus réagit-il? Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Nous avons besoin de nourriture physique, bien sûr, mais nous avons besoin aussi de nourriture spirituelle pour notre âme. C'est la raison pour laquelle nous venons écouter la parole, nous venons dans ce lieu pour louer le Seigneur, pour prier et pour avoir de la communion fraternelle. Approche tactique, il joue sur la vulnérabilité. Et chacun d'entre nous, nous connaissons nos points de fragilité et la tentation n'est pas la même pour tous. Nous ne serons jamais tentés de transformer des pierres en pain. Ça serait sympa hein, de transformer une pierre en Big Mac. Mais ça n'arrivera pas parce que nous n'avons pas la puissance de Dieu et de Jésus. Nous ne sommes pas Jésus. Et puis, troisièmement, la facilité. L'adversaire est très pragmatique, c'est un terre-à-terre et il est dans la logique. Au chapitre 4 du verset 5, on lit cette phrase, « Le diable l'emmena plus haut sur une haute montagne et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. » Remarquez que Jésus ne le contredit pas. Il sait que c'est vrai. Depuis la chute, Satan a reçu une certaine autorité sur le monde. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on l'appelle le prince de ce monde, ou le dieu de ce monde, le prince de la puissance de l'air. Et c'est cette situation qui a rendu nécessaire la venue de Jésus. Colossiens chapitre 1, verset 13, un verset très important nous dit « Il est venu, donc il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. » Voilà notre identité. Et quand on parle de l'adversaire, il faut aussi parler et compenser par la victoire de Jésus. Et on l'a chanté tout à l'heure, le Dieu Tout-Puissant. Le diable n'est pas tout-puissant, seul Dieu est tout-puissant. Jésus est tout puissant. Et le diable suggère ici à Jésus de prendre un raccourci. Tu n'as pas besoin de souffrir en montant sur la croix. Je peux te donner le monde si tu te prosternes devant moi. Et c'est ce qu'il a toujours voulu. Si seulement, c'est un vieux refrain, si seulement Dieu t'accordait ce que tu veux, si seulement Dieu te donnait ce que tu mérites. Tu sais, le chemin de Dieu est douloureux, mais moi je peux te donner ce que Dieu te refuse, sans effort. C'est vrai, le diable peut te donner ce que tu veux, mais à quel prix? À quel prix? Si tu te prosternes et m'adores, et finalement tu deviens l'esclave de l'adversaire, et il détruit ta vie. Alors quelle est la réponse de Jésus? C'est intéressant parce que Jésus est notre modèle en tout. Luc au chapitre 4 au verset 8, il dira « Retire-toi Satan, en effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Autrement dit, je préfère m'en tenir à la parole de mon Père. Je sais qu'un jour je régnerai sur le monde, mais je tiens à dépendre de mon Père et non de toi. C'est ce qu'il dit en substance. Il n'existe pas, mes amis, de raccourci pour avancer dans la vie chrétienne. Il n'y a pas de raccourci pour parvenir à la maturité spirituelle. La victoire facile, ça n'existe pas. Le vent va souffler, comme dans la parole tout à l'heure qui nous a été dite. Il y a le vent du Saint-Esprit, mais il y a aussi les vagues et les vents contraires avec lesquels il faut compter. On n'a pas de recette. Premièrement, tu fais ceci, deuxièmement, tu fais cela, troisièmement, tu vas faire cela, et tu vas être béni. Non, c'est pas comme ça que ça marche, les amis. Si Jésus est mort sur une croix avant de ressusciter et de s'asseoir sur son trône, ne nous attendons pas à emprunter un chemin de facilité. À une époque où on veut tout, tout de suite et maintenant, Jésus nous appelle à le suivre. Connaissez les paroles de ce chant qu'on chante quelquefois, « Jésus, je te suivrai ». Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde, « Jésus, je te suivrai ». Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre, « Jésus, je te suivrai ». Car tu es mort pour moi, je vivrai pour toi, tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver, Jésus, je te suivrai. Donc, tactique, vulnérabilité, facilité. Arrive maintenant un quatrième point, un quatrième aspect de la confrontation qui est le sensationnel. Sensationnel. Luc chapitre 4, verset 9. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Alors ici, le malin cite la Bible. C'est intéressant. Ben oui, le diable connaît la Bible. Il la connaît bien. Jésus a répondu à deux reprises en disant, il est écrit. Alors l'adversaire fait la même chose. Il cite la Bible, et notamment le psaume 91, au verset 11 et 12. Sauf que, il oublie volontairement une partie du texte. C'est la raison pour laquelle ici à l'Épi, on vous dit souvent, prenez le texte, lisez-le dans son contexte. Parce qu'un texte sorti de son contexte peut devenir un prétexte. Et on a une démonstration très claire ici. Il oublie volontairement une partie du texte. Ce qu'il oublie, c'est pour te garder dans toutes tes voies, dans les voies de Dieu. Il prend soin d'écarter le contexte. Au verset 9, il ne le cite pas, où il est écrit « Tu es mon refuge éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite ». En fait, il cite la parole en fonction de ce qu'il arrange, en fonction de son projet de faire écarter du chemin de Dieu celui qui l'attaque. Et dans ce sens-là, on peut faire dire à la Bible tout ce qu'on veut. Dans cet aspect-là, le diable suggère qu'un chrétien engagé, obéissant à la volonté de Dieu, est toujours protégé. Est-ce que c'est vrai? Oui, le Seigneur est toujours avec nous. Il l'a promis. Mais hélas, il nous arrive de connaître des drames, de connaître des pertes, de connaître des épreuves, face auxquelles nous n'avons pas toujours de réponse. C'est la réalité, mes amis. Donc la première tentation, changer les pierres en pain, changer la pierre en pain, c'est une remise en question de l'amour de Dieu, de sa provision, de sa capacité à pourvoir à nos besoins. Le Seigneur pourvoit à nos besoins. Il ne pourvoira peut-être pas toujours à nos envies, mais il pourvoit à nos besoins. Deuxième tentation, servir le diable pour obtenir le monde, c'est une remise en question, une remise en cause du plan de Dieu pour ma vie. La troisième tentation, se jeter dans le précipice, c'est mettre en doute la protection de Dieu. Dieu est notre protecteur, il est notre refuge, il est notre abri. Si nous nous plaçons sous sa protection, si nous nous plaçons sous son refuge. Jésus répond ici, encore une fois par la parole, Luc 4, 12, il dit, « Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Autrement dit, tu ne peux pas te mettre volontairement en situation d'être tenté et t'attendre à ce que Dieu vienne te secourir. Un proverbe bien connu qui nous dit, « Pour ne pas vous faire piquer, éloignez-vous des guêpes. » Ne jouez pas avec le feu. Parce que quand on joue avec le feu, on finit toujours par se brûler. 1 Jean 5, verset 18, « Celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. » Or c'est bien de prier, « Seigneur, garde-moi, garde-moi. » Le Seigneur veut bien te garder. Mais toi, garde-toi aussi. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Approche tactique, focalisée sur la vulnérabilité, un appel à la facilité, appel au sensationnel, et puis pour finir, l'opportunisme. L'adversaire est un opportuniste. Luc chapitre 4 au verset 13. « Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. » C'est un combat à plusieurs rounds. C'est comme s'il nous disait, je reviendrai. Je reviendrai. Puis en effet, il revient un peu de temps après. Pierre demande à Jésus de ne pas souffrir à la croix. Et Jésus se retourne vers Pierre en disant, on l'a lu tout à l'heure, arrière de moi, Satan, car tu es un piège pour moi. Il revient par l'intermédiaire de Judas pour trahir le Seigneur. Ils sont là un moment très important, c'est le soir de la scène, ils sont dans la chambre haute, et c'est terrible, parce que le texte nous dit que Satan entra en Judas. C'est terrible. Et puis il est sorti, et peu de temps après, il s'est pendu. Quelle terrible scène, ça, c'est terrible. Et puis, il est de retour dans le jardin de Gethsémané quand les gardes et les chefs religieux viennent arrêter Jésus, Luc 22, 53. C'est maintenant votre heure et celle du pouvoir des ténèbres. En fait, les guides religieux à ce moment-là se sont associés à la puissance des ténèbres. Lorsqu'on a remporté une victoire sur une tentation, sur le tentateur, on a fait un pas vers la maturité chrétienne, vers la maturité spirituelle, ou si vous préférez, vers la sanctification. Mais le combat n'est jamais terminé. Il y a une autre tactique qui nous attend. Il y a une autre vulnérabilité, un autre aspect de facilité, un autre appel au sensationnel, une autre occasion, une autre opportunité. Et c'est ce qui fait dire au pasteur écossais du 19e siècle, André Bonnard, « Soyons autant vigilants après la victoire qu'avant la bataille. » Je vais demander à l'équipe de louanges de remonter sur l'estrade pendant que je vous laisse trois pensées importantes. La première, à l'égard de tout ce qu'on vient de dire ensemble, tenez ferme. Soyons comme Jésus. Tenons ferme. C'est Éphésiens 6 au verset 14 qui nous dit cela. Et puis Jacques, au chapitre 4, verset 7, nous dira « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Il fuira loin de vous. » C'est ce que Jésus a fait. Il a tenu ferme et il a tenu tête à l'adversaire. Il lui a résisté au prince des ténèbres qui a dû le laisser tranquille. Il est parti. Alors vous ne pouvez pas dire non à l'adversaire si au préalable vous n'avez pas dit oui à Dieu. Et ce matin, je voudrais vous engager à dire oui, Seigneur, je te suivrai. Oui, je suis tenté par la facilité. Oui, je suis tenté à prendre des raccourcis. Oui, je suis tenté de douter de ton amour. Mais je te suivrai parce que je veux tenir ferme sur ta parole. Ensuite, deuxième chose, lisez la Bible, mémorisez la Bible. Étudiez votre Bible. Chaque tentation a été contrée par une parole de Dieu. Jésus n'a pas juste jeté un verset biblique à la figure de l'adversaire. Il est lui-même la parole de Dieu. La parole a été faite chair. Il s'agit d'incarner la parole, de vivre à la lumière de sa parole et en soumission à cette parole de Dieu. La parole de Dieu est une force au moment de la tentation. Parce que le but de l'adversaire, c'est de nous faire sortir du plan de Dieu. Mais la parole de Dieu nous y ramène. Et puis, troisième pensée, restez proche de Dieu. Et restez proche de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont sur le chemin à vos côtés. Jésus était tenté par l'adversaire, mais il était aussi rempli du Saint-Esprit et conduit par le Saint-Esprit. Ne venez pas juste faire une visite à Dieu le dimanche matin, à la célébration. Faites du Seigneur, faites de Dieu votre compagnon de route de tous les jours. Fortifiez-vous dans votre foi, dans votre identité en Christ, par un contact régulier. Dans la jungle, terrible jungle, le lion n'est pas mort ce soir. Et puis il y a cette parole forte dans 1 Pierre 5, verset 9. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Ayant dans notre pensée la perspective de l'éternité, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, il vous affermira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. On va rechanter ce chant, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Et puis on aura un temps de prière où vous pourrez reconsacrer votre vie au Seigneur et lui dire, je te suivrai, je veux tenir ferme, je crois en ton amour pour moi. Je crois que tu es mort pour moi et que tu as sacrifié ta vie pour me donner une identité à laquelle je me tiens et je m'appuie. Alléluia.
Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures de chants d'amour, chants de délivrance. Devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus.
choisi, appelé par ton nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se voient dans ton amour, tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer, tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu.
Déclarons-le ensemble, je suis enfant de Dieu.
Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Je suis enfant de Dieu.
En fait, de prière, vous avez déjà formulé cette prière en vous positionnant en tant qu'enfant de Dieu. C'est la plus belle chose que nous puissions faire. Honorer le Seigneur en disant « Je suis ton enfant, je suis de ta famille ». Alors Seigneur, ce matin, on veut te louer, te célébrer parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Et en Jésus-Christ, tu as fait de nous tes enfants. Nous sommes de ta famille. Je prie ce matin pour quelqu'un qui a du mal à se positionner encore, pour quelqu'un qui doute de ton amour, pour quelqu'un qui vit sous la condamnation. Il n'y a désormais plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors merci Seigneur, merci de nous aider les uns les autres et les uns au travers des autres à nous encourager dans ces vérités fondamentales. Bénis, Seigneur, ce matin ton peuple. Merci, merci de pouvoir nous positionner en tant qu'enfants de Dieu et de résister à l'adversaire. En Jésus-Christ, nous sommes victorieux et vainqueurs et nous te remercions pour cela. Merci de ta fidélité, merci de ta bonté, merci, Seigneur, de communiquer encore ce matin à quelqu'un la réalité de ton amour. Quelqu'un qui doute de ton amour. Tu aimes. Dieu est amour. Dieu est amour et Dieu a prouvé son amour envers nous en ce qu'il nous a donné Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité, ta bonté, ton amour. Et de sceller ces vérités ce matin profondément dans notre cœur. Nous repartons de ce lieu avec cette assurance, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci. Amen. Amen.
Waouh! On va se quitter dans un instant en louange. Hein, la louange, elle précède la victoire, dit la Bible. Et on peut juste remercier Dieu pour ce temps de célébration. L'épi est pleinement elle-même quand on diffuse, quand on partage, quand on communique. une théologie, une pensée biblique, un message biblique qui est centré sur Jésus et qui nous aide à comprendre l'amour de Dieu. Et c'est ce qu'on vit ce matin. Et Dieu est bon. On va finir en louange. Et juste avant encore, n'oubliez pas de vous encourager les uns les autres. Et sur les trois aspects que Michel nous a donnés ce matin, peut-être repartir et réfléchir, peut-être ce soir avant de dormir, c'est quoi mon petit plan d'action? Quel est le pas que je fais cette semaine pour rester proche de Dieu, pour étudier? Voilà, que chacun d'entre nous puisse repartir avec cette pensée tout à fait pratique de c'est quoi le pas de plus. On se lève ensemble dans la présence de Dieu et on va célébrer Jésus ici à Strasbourg. Bon retour à chacun aussi et à vous qui êtes en ligne.
Je veux le proclamer du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, bon pour moi. À toi ne se compare, les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car
tu es bon,
et je danse car je crie de joie, tu es bon,
wouh,
tu es bon pour
moi.
Amen. Et je chante
car tu es bon,
et je danse
car tu es bon,
et je crie de joie, tu es bon, tu es bon, bon pour moi. Oui Seigneur, tu es bon. Tu es bon. Alléluia. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. C'est pour son Dieu. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon,
woo!
Tu es bon pour
moi.
Amen. Et je chante car tu es bon,
et je danse
car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon, tu es bon pour moi.
Encore une fois.
Et je chante
car tu es bon,
et je danse
car tu es bon,
et je crie
de joie.
Woo!
Tu es bon pour moi.
Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon, haha, tu es bon.
Two.
toi, Seigneur. À toi toutes nos louanges, à toi toute notre adoration, Jésus. Alléluia. Bien, je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Soyez bénis, ressourcés, renouvelés. Et puis à dimanche prochain, alors.